L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ça, c'est merveilleux. Et puis, peu importe ce qui se passe dans le monde, si on écoute la parole de Dieu, on a une sécurité dans notre cœur parce qu'on sait que peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu lui change jamais. Puis, on a vraiment cette foi-là en lui. Et puis ce soir, comme je vous ai dit tantôt, on va avoir un message concernant la prédestination du Québec. Tout un titre, hein? On a déjà entendu parler de la prédestination. S'il y en a parmi vous, vous avez déjà entendu parler de la doctrine de la prédestination, en levant votre main. OK, il y a toutes sortes d'opinions sur la prédestination. Et ce soir, ce qu'on va faire, on ne va pas essayer d'amener un enseignement super controversé, mais plutôt on va voir le côté positif de cet enseignement-là, comment Dieu, dans son cœur, il y avait un plan pour la nation du Canada. Et en plus, Dieu avait un plan pour la province du Québec. Moi, je crois ça. Et puis, voilà quelques années, moi, je ne savais pas que Dieu avait un plan et une destinée pour un pays. Je pensais simplement que Dieu avait un plan pour une personne, mais Dieu a aussi un plan pour une collectivité. Et quand on comprend ça, là, on peut prendre les pas par la foi pour s'aligner avec la volonté de Dieu. Ça fait toute la différence quand on comprend cette chose-là. Comme vous voyez dans la parole de Dieu, Israël, qui est le peuple de Dieu, bien Dieu avait un plan pour Israël. Mais Dieu n'a pas fini d'avoir des plans pour les nations. Dieu a des plans même pour le Canada. Alors, ce que on va faire cet après-midi, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe 44. Et on va voir, premièrement, quand on parle qu'il y a une destinée pour la nation du Canada, il faut premièrement comprendre que Dieu a une destinée pour la terre et c'est une destinée de gloire. Et quand on parle de la gloire, on va définir c'est quoi la gloire selon Dieu. En anglais, moi, quand j'étais en Alberta, les gens m'appelaient « the glory man » parce que je disais tout le temps « glory »,« well glory », qui veut dire « gloire ». Hein? Gloire. En français, on ne le dit pas vraiment parce que c'est pas beau. Mais en anglais, well glory, ça veut dire gloire à Dieu. Et puis, il m'appelait comme ça Glory Man parce que j'étais à la recherche de la gloire de Dieu dans ma vie. Et puis, ce soir ou cet après-midi plutôt, on va voir c'est quoi la gloire de Dieu, à quoi on peut s'attendre ici à Bromont. Et puis là, on peut relâcher notre foi pour vivre cette gloire-là. Alors, on peut laisser ça comme ça, c'est correct. Tantôt, on verra. Vous comprendrez pourquoi on a ce texte-là. Donc, dans Ésaïe 44, verset 3, il est écrit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Si on connaît un endroit au monde qui est desséché, c'est le Québec. Amen. On va prier ensemble maintenant, juste pour la parole de Dieu. Seigneur, on te demande, Seigneur, que cette parole puisse vraiment prendre racine dans nos cœurs. Que tu nous donnes une révélation, Seigneur Dieu, de ta parole concernant la destinée de notre nation et comment nous sommes impliqués dans cette destinée-là. Seigneur, je prie vraiment pour un esprit de révélation, que ça puisse être ancré en nous à tout jamais, Seigneur, et qu'on puisse avoir ta vision et qu'on puisse jamais manquer ou se décourager dans la vision, mais qu'on puisse aller de l'avant. Alors, Seigneur Dieu, on appelle la présence de ton esprit de nous illuminer ta parole. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et si je répandrai des eaux sur le sol altéré, on peut voir le Québec, c'est un sol altéré. C'est un sol qui est desséché. Et Dieu dit, il va répandre son esprit sur cette province, sur nous. Amen. Je répandrai mon esprit sur ta race, sur les francophones, et ma bénédiction sur tes rejetons. Et dans Habacuc 2, 14, ça dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. » Vous savez, ici, c'est important de remarquer, ça dit, la terre sera remplie simplement de la connaissance de la gloire, mais pas nécessairement de la gloire partout. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans la gloire. Mais tout le monde, partout à travers le monde, les gens vont entendre parler de la gloire. C'est pour ça que ça dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. Tout le monde va connaître à une certaine mesure que la gloire est là. Mais nous, on ne veut pas simplement entendre parler de la gloire, mais on veut vivre la gloire parmi nous. Amen. Croyez-vous ça ce soir? On veut la vivre parmi nous. Si c'était pas pour la gloire de Dieu, je peux vous dire, on serait pas ici aujourd'hui. On serait pas intéressé d'avoir des réunions d'église. Parce que moi, je suis pas une personne religieuse. Je veux pas simplement avoir des réunions pour avoir des réunions. On veut la gloire de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu parmi nous. C'est la seule raison pourquoi qu'on est ici. Certainement, on répond à l'appel de Dieu en obéissance, mais c'est ça, qu'est-ce qui nous motive vraiment, c'est de voir Dieu se glorifier parmi nous. S'il y a des malades parmi nous, on veut les voir guéris. On ne veut pas qu'ils retournent chez eux de la même façon qu'ils sont arrivés. S'il y a des gens qui sont avec toutes sortes de problèmes financiers ou des choses qui viennent peser sur leur dos, on veut qu'ils sortent d'ici libres au nom de Jésus. C'est ça qu'on veut voir. Vous savez, il y a quelques années, j'avais eu une vision. Et j'ai su par après qu'il y avait d'autres personnes qui avaient eu des visions identiques. Mais j'ai vu une vision d'une grande vague qui s'en venait. Ça partait du Québec et ça s'en allait jusque dans l'Ouest canadien. Et à l'époque, j'étais en Alberta quand j'ai eu cette vision-là, de cette vague-là. Et je savais que la vague représentait un tsunami de la gloire de Dieu, un tsunami de la présence de Dieu qui venait et qu'il y aurait une grande récolte d'âmes partout à travers le pays du Canada. Puis dans le temps, moi, j'étais en Alberta, puis j'ai eu ça, et je savais qu'à quelque part, que Dieu était pour faire quelque chose de spécial au Québec. Par la suite, on a eu Tabitha Lemaire et son mari Dominique qui étaient chez nous il y a quelques semaines. Et puis, j'ai montré la belle toile que Marie-Pierre a faite et s'est accrochée dans mon bureau présentement. Une belle toile de cette vague de la gloire qui s'en vient. Et là, j'ai présenté ça, puis elle dit, ah, c'est spécial, Joël. Elle dit, moi aussi, j'ai eu cette même vision-là. Et mon mari aussi a eu cette vision-là. Je sais qu'il y en a d'autres également, d'autres prédicateurs avec qui j'ai parlé, ont eu cette même vision, qu'il y a une grande vague de la gloire de Dieu qui s'en vient sur la province du Québec et sur le restant du pays, et que ça va partir ici, ça va partir d'ici, du Québec. Et même de Bromont, on ose croire. Amen. Mais il y a une vague de la présence de Dieu qui s'en vient. Vous allez dire, oui, OK, Joël, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi exactement? Comment est-ce qu'on peut comprendre la gloire de Dieu? Bien, allons dans la parole, hein, parce que la réponse se trouve toujours là. J'invente rien ce soir. Dans Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, on comprend, nous sommes créés à l'image de Dieu. Maintenant, nous allons voir, c'est quoi l'image de Dieu? La Bible se définit elle-même. Dans Ézéchiel, chapitre 1, 27 à 28. Ici, on voit c'est quoi l'image de Dieu. Dans Ézéchiel 1, 27 à 28. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Ici, Ézéchiel a une vision de Jésus et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Une lumière éclatante. Pouvez-vous vous imaginer ça? Être recouvert d'une lumière éclatante. Wow, c'est quelque chose, ça. Verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui était dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Quand on parle de la gloire de l'Éternel, on parle de cette lumière éclatante. On parle du feu de Dieu. Et c'est pas simplement quelque chose de poétique, mais le feu de Dieu, c'est littéral, mais c'est dans le monde spirituel. Et moi, je crois qu'on va entrer dans cette dimension-là, surtout dans nos mercredis soirs de prière, comme on est réunis pour prier ensemble, pour chercher la présence de Dieu, pour vivre plus de la gloire de Dieu. On va vivre le feu comme on a vu dans le livre des Actes. Moi, j'y crois de tout mon cœur. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre cette gloire-là? Et on a simplement besoin de lui demander. On demande à Dieu pour sa visitation. Faut avoir soif. Faut avoir soif de ça, mais lui demander aussi. Et je crois qu'on est au début présentement, on est en train d'apprendre à prier ensemble, mais il va y avoir des temps où la gloire de Dieu va venir d'une façon tellement tangible, ça va être merveilleux. Et on va se réjouir de sa présence. Mais vous savez, il y a des photos même qui ont été prises en Afrique. Lorsque les gens priaient, on voyait des langues de feu partout sur les têtes. Je n'avais même pas préparé de vous parler de ça ce soir, mais on voit littéralement des photos avec des langues de feu. Et on se dit, ben c'est quoi ça, des langues de feu? Vous voyez des fois dans des petits livres d'enfants, des livres où on voit l'histoire de la chambre haute, on voit toujours comme un petit lighter, hein, une petite mèche de rien, un petit lighter, une allumette. Mais le feu qu'on parle, là, c'est la personne est consumée par ce feu. Elle a pas mal, là. Mais c'est un feu de Dieu. C'est le feu de Dieu, la présence de Dieu. Et c'est merveilleux, on voit ça, là, ça c'est partout sur les têtes des personnes. Mais pourquoi? C'est parce que Dieu a besoin de nous transformer et le feu nous transforme. Vous savez, si on demeure des chrétiens terre à terre, on va vivre une religion chrétienne évangélique. Et moi, je suis tellement pas intéressé de vivre une religion. Je veux goûter à plus de la présence de Dieu. On veut vivre plus de la présence de Dieu. Alors, il faut avoir plus soif et laisser le feu de Dieu nous transformer, nous changer complètement. Et là, notre soif va s'agrandir davantage, comme nous allons passer plus de temps avec lui dans la prière. Alors, tout ça pour vous dire, vous êtes invités le mercredi soir à prier avec nous. Mais c'est une image de la gloire de l'Éternel. Et j'ai déjà raconté ça à la radio, alors si vous l'avez entendu, mais ça me vient à l'esprit. Je me souviens que Jerry Savelle racontait un témoignage. Il était dans la présence de Dieu, il priait, et le Seigneur lui a dit d'aller magasiner. Et puis, il y avait une dame qui était malade, elle priait, elle demandait au Seigneur, elle dit, « Seigneur, j'aimerais ça être guéri. » Alors le Seigneur lui a dit, « Va-t'en magasiner. » Et puis, elle est allée magasiner. Quelle directive, hein, de Dieu, mais en tout cas, elle est allée magasiner. Et puis Dieu, il avait dit, il y a quelqu'un là-bas qui va prier pour toi et tu vas être guéri. Mais comment est-ce qu'elle a trouvé la personne en question qui était pour prier pour elle? Bien, pendant qu'elle marchait dans le centre d'achat, elle voyait une lumière qui suivait dans le passage, puis elle a décidé de suivre la lumière. Finalement, elle s'est rendue devant l'homme où la lumière se posait. C'était Jerry Savelle. Puis elle dit, « Monsieur, pouvez-vous prier pour moi? Je suis malade. » Il dit, « Certainement, ma petite madame. » Il a prié pour elle, puis elle a été complètement guérie. Ça, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. La lumière éclatante, le feu de Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est une manifestation de la présence de Dieu. Moi, c'est ça que je veux vivre. On a déjà goûté à la gloire de Dieu, je peux vous dire. Mon épouse et moi, on a eu des bons temps dans la présence de Dieu. Mais vous savez, quand on a goûté à la présence de Dieu, on en veut encore plus. On ne dit pas, « Ah ben, j'en ai eu, gloire à Dieu, là, je suis rempli jusqu'à temps que je me rende au ciel. » Non, on veut plus de Dieu. On veut de plus en plus la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, tout ça pour dire que la gloire de Dieu s'en vient aussi sur la nation du Canada. Et dans Psaume 72, verset 8, ici, c'est très important de comprendre que Dieu a une destinée pour la nation du Canada. Si on ne comprend pas ça, waouh, comment est-ce qu'on peut intercéder pour la nation? Il nous manque tout un outil. La connaissance que Dieu avait prévue avant la fondation du monde, que le Canada était pour être utilisé de la part de Dieu pour les temps de la fin. Dieu a choisi la nation du Canada pour les temps de la fin. Et dans le psaume 72, verset 8, il est écrit, en parlant de Dieu, « Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Et c'est un texte, on pourrait dire, oui, mais ça se réfère à Israël. Mais savez-vous que Dieu peut employer également un texte pour une nation? Et pourquoi est-ce qu'on croit que ce texte-là se réfère au Canada? Mais c'est la seule nation moderne où ce texte-là peut être appliqué. Il dominera d'une mer à l'autre. On sait que le Canada, d'une mer à l'autre, le Canada, il y a toute cette terre-là. Et du fleuve, quel fleuve, croyons-nous? Le fleuve Saint-Laurent. Et du fleuve aux extrémités de la terre. Mais non seulement on croit ça parce que le pays du Canada peut être décrit ainsi, mais aussi parce que celui qui a eu l'inspiration divine pour le nom de ce pays, le nom du Canada, s'est réveillé un matin et le Seigneur l'a dirigé vers ce texte-là et lui a dit, le Canada, le pays ici, sera appelé la Dominion du Canada. Et si vous ne saviez pas, ici, là, le pays, légalement, c'est la Dominion du Canada. Et c'est tiré à cause de ce verset-là, le psaume 72, verset 8. Il dominera, Dieu va dominer d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Ça, c'est le plan de Dieu pour la nation du Canada. Et si vous avez besoin de quelque chose d'autre pour vous aider à comprendre ça, non seulement est-ce que cet homme-là qui a proposé le nom « Dominion of Canada » ou « La Dominion du Canada », mais il a également fait en sorte que ça soit écrit sur l'édifice du Parlement. À Ottawa, si vous y allez, vous allez voir, il y a l'édifice du Parlement, et il y a des pignons au-dessus des fenêtres et même à l'entrée. Et c'est écrit, ce verset-là, « Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Ça appartient au Canada. Et même si on veut tout réécrire dans nos lois au Canada, même si on veut faire semblant que la nation du Canada, ce n'est pas une nation chrétienne, même si on veut faire semblant que Dieu n'a jamais existé, on peut le prouver parce que c'est même, non seulement écrit, il ne peut pas l'enlever, c'est gravé dans la structure sur la colonne parlementaire. C'est gravé dans notre nation. Il y a un ADN dans cette nation-là. Et c'est en sorte que, oui, Dieu va dominer, mais non seulement qu'il va dominer par cette nation, mais il va y avoir un message qui va être véhiculé par la nation du Canada. Et c'est dans Zacharie 9, verset 10. Zacharie 9, verset 10, écoutez bien ceci, en parlant de Dieu encore une fois. « Il annoncera la paix aux nations. » Et là, ensuite, on retrouve « Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez-vous ici, il annoncera la paix aux nations. Ça, c'est notre devoir. Le Canada a été appelé par Dieu, choisi par Dieu, pour annoncer la paix aux nations. C'est ça, le message de la paix, c'est quoi? C'est l'Évangile en Jésus-Christ. C'est ça le message. On était appelé par Dieu pour annoncer la paix. Vous allez dire, « Ouais, mais Joël, est-ce que nous ne sommes pas tous appelés, toutes les nations de la terre, appelées à annoncer la paix? » Mais certainement, on devrait tous annoncer la paix, c'est bon, absolument. Mais Dieu a choisi le Canada avec ce mandat spécifique. Nous sommes des serviteurs du Dieu, et vous savez, de Dieu. Et vous savez, aux États-Unis, c'est plus comme l'apôtre. Des nations. Les États-Unis, c'est le pays qui est le plus prospère, ou en tout cas, ça l'a été pendant longtemps, le pays le plus prospère, mais aussi avec le plus de pouvoir. Et nous, nous sommes là pour servir cette nation d'une certaine façon, mais d'être porte-parole pour Dieu, pour annoncer, déclarer la paix aux nations. Et je vais vous inspirer ici avec quelques prophéties, juste pour vous laisser savoir que non seulement est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu et qu'on croit que ces textes-là s'appliquent au Canada, mais il y a plein de personnes aussi qui ont prophétisé cette même chose pendant des siècles. Donc, en 1776, ici, il y avait des prophètes, OK, qui faisaient partie des réformateurs puritains. Et ces gens-là, je vous explique, les loyalistes de l'Empire britannique se dirigeaient vers le nord qui habitaient, OK, qui s'en allaient vers le Canada. Donc, tous ceux qui étaient loyaux à l'Empire britannique s'en venaient au Canada, et puis il y en avait plein qui n'étaient pas loyaux, qui ont décidé de rester aux États-Unis. Et puis certains Américains, ils allaient persécuter les loyalistes. Ils étaient là en train de persécuter ces gens-là. Vous n'avez pas le droit de vous en aller, vous n'avez pas le droit. Puis qu'est-ce que vous faites en train de demeurer fidèle à la couronne britannique? Pourquoi vous faites toutes ces choses-là? Puis là, tout d'un coup, il y a un prophète qui s'est élevé parmi le peuple en 1776. Il dit, « N'empêchez pas ce peuple. Laissez-les déménager au Canada. » N'essayez pas d'incorporer la terre du Canada dans l'Amérique. Dieu dit, je suis l'indépendance de l'Amérique, de l'Angleterre, et je vais utiliser ce pays puissamment. Mais le Canada m'est réservé pour les derniers jours, pour un travail particulier. Ça, c'est écrit en 1776. Le Canada m'a été réservé pour les temps de la fin, pour un travail particulier. Et en 1920, Smith Wigglesworth, avez-vous déjà entendu parler de Smith Wigglesworth? Et Dr. Charles S. Price. Les deux ont eu une vision d'une vague de réveil qui était pour venir sur le Canada, dans notre époque en passant. Ils ont eu une vision et c'était pendant notre époque. Ils ont vu que dans nos années, il y aurait une vague qui s'en viendrait. Et ce serait une vague de réveil. Donc, une confirmation en 1920. En 1975, avez-vous déjà entendu parler du pasteur Dr. Paul Yonggi-cho, le pasteur de la plus grande église au monde? Je pense que c'est un homme un peu crédible. Ici, en 1975, le Seigneur a dit ceci à Dr. Paul Yonggi-cho lorsqu'il était en visite au Canada, en Colombie-Britannique. Le Seigneur lui a dit, « Mon fils, tu es venu à l'endroit que j'ai choisi. Ce pays est le pays que j'ai choisi pour unir les nations. Canada, vous êtes aimé de tous les peuples au travers le monde entier. Canada, élevez-vous, prenez votre place. » Ça, c'était la parole prophétique que le Seigneur a donnée à Dr. Paul Yonggi-cho pour la nation du Canada en 1975. Canada, élevez-vous, prenez votre place. Combien de fois est-ce qu'on prend le recul et le Canada est connu comme étant toujours la nation où on est toujours gentil? Hein? Ça, c'est la réputation du Canada partout à travers le monde. On est gentil, on ne dérange pas grand monde. Mais ici, ça dit, prenez votre place. Et dans quel sens qu'on devrait prendre notre place? Bien, dans notre autorité, dans le Seigneur. On ne prend pas le recul? Vous savez, ici, on m'a demandé, vous savez, il n'y a pas de place pour une église à Bromont. Ça ne vous tente pas d'aller ailleurs? Non, on ne s'en va pas nulle part. Je sais qu'il y a un prix à payer pour être à Bromont, parce que si on était à Granby, on pourrait déjà se réunir le matin. Hein? Mais non, on prend notre place. Et puis, le fait qu'il n'y a pas d'église chrétienne à Bromont, bien, moi, je pense que c'est temps que ça change. Hein? C'est temps que ça change. On prend notre place. On prend notre place. En 1984, ensuite, Dr. Paul Yonggi-cho a eu une deuxième parole de Dieu. Lorsqu'il était en Nouvelle-Écosse, Il avait voyagé de Montréal à Vancouver en auto. Hein, pouvez-vous vous imaginer faire ça en auto? Je ne l'ai jamais fait. Mais il était vraiment déprimé parce qu'il se promenait puis il voyait la petitesse de l'Église au Canada. Il se promenait puis il disait, « Wow, c'est donc un petit ici, là. » En plus, lui, il est pasteur de la plus grosse église au monde. Puis là, il s'en vient au Canada puis il voit, c'est toutes des petites églises. Puis ça pourrait être déprimant pour lui. Mais là, Dieu lui a dit, en 1984, « Il y aura de très grosses églises au Canada. » Que ce pays serait grandement utilisé de Dieu pour le travail missionnaire, que le Canada ouvrirait le chemin pour le retour de Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi le Canada peut ouvrir le chemin au retour de Jésus-Christ? C'est parce que Jésus va revenir chercher son Église, mais il faut qu'il y ait une Église, il faut qu'il y ait un peuple de sauver, n'est-ce pas? On a besoin des gens de sauver. Jésus tarde sa venue parce qu'il n'y a pas assez de gens de sauver encore. Alors, quand on va avoir toute une foule de personnes converties qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, bien là, Jésus va pouvoir revenir. Mais il ne reviendra pas jusqu'à temps que le Père l'envoie et le Père n'envoie pas son Fils jusqu'à temps qu'il y ait une foule prête à le recevoir qui s'est donnée. Parce que Dieu ne veut pas que personne périsse, mais il veut que tout le monde soit sauvé. Alors Dieu travaille les cœurs, mais il va avoir un grand réveil avant la venue de Jésus-Christ. Moi, je crois ça. Là, ensuite, le Seigneur a encore parlé à Pasteur Dr. Yonggi Cho. En 2002, il est venu au Canada pour prier sur l'île de Vancouver. Pouvez-vous vous imaginer? Le pasteur de la plus grosse église au monde, il revient toujours au Canada, mais il vient au Canada pour prier. C'est une place où il vient prier à l'île de Vancouver et pour ensuite confirmer le même message qu'il avait donné. Donc, c'est clair, de toutes ces choses-là, il répète la même chose que Dieu a choisi le Canada pour cette destinée de récolte d'âmes, de cette vague de la gloire de Dieu qui s'en venait. Vous allez dire, « Ah, c'est merveilleux, Joël, mais moi, je suis séparatiste. » Ça n'a pas rapport avec moi, admettons, OK? Admettons, c'est vous. Mais savez-vous que Dieu a un plan aussi pour le Québec? Et mon objectif ce soir, ce n'est pas de parler de politique, mais je crois que, vous savez, il y a eu des blessures dans le passé avec le peuple québécois, où les Québécois ont été rejetés, ils ont été, en tout cas, on pourrait retourner en histoire, il y a eu tellement de rejets du peuple québécois, même de nos parents francophones de la France, il y a eu ce rejet-là. Il y a eu le rejet aussi des anglophones. Vous savez, au Québec, lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant, après un certain temps, le curé pouvait arriver et dire à la dame, « Vous savez, vous n'avez pas eu un enfant cette année. Si vous n'avez pas, d'ici l'année prochaine, vous allez être excommuniqué ou excommunié, là, qu'on dit. » Vous savez, ça, c'est une réalité qui se passait ici, au Québec. Et puis, bon, il y avait ce rejet-là, d'une certaine façon, peut-être de l'Église d'ici, mais aussi le fait que si la femme ou si le couple empêchait la famille, ou empêchait pas la famille, plutôt, il y aurait tellement des grandes familles que là, finalement, les familles n'avaient jamais l'argent nécessaire pour payer les études de ces gens-là. Donc, il y avait plein d'enfants, comme 18 enfants, puis là, les parents n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants suivre des études postsecondaires. Là, ces enfants-là se trouvaient à être les serviteurs des anglophones, qui, eux, avaient deux enfants, puis ils pouvaient payer les études aux autres. Donc, il y avait tout ce climat-là qui s'est passé au Québec, un esprit de rejet, et puis là, il y a eu cette blessure-là, et là, les francophones ont voulu se séparer pour dire, « Hey, on est quelqu'un, nous autres. On est une vraie race, là, des francophones. On est quelqu'un. » Et puis, il y a eu tout cet esprit-là. Mais moi, je crois dans tout ça, c'est que l'ennemi voulait séparer ou détruire les plans de Dieu que Dieu avait préparés pour la nation du Canada. Et moi, je crois que Dieu a non seulement choisi le Canada, mais il a même choisi l'endroit où il était pour visiter, et c'est le Québec. Nous faisons partie de l'endroit que Dieu va visiter sur la planète Terre. Croyez-vous ça ce soir? Moi, je crois ça. C'est merveilleux. Et vous savez, j'étais au téléphone cette semaine avec Faithine et d'autres. On était, je pense, 20 au téléphone. Pouvez-vous vous imaginer ça? 20 personnes au téléphone. Mais on était là pour prier ensemble pour le ralliement qui va se passer à Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, dans 2 semaines, je m'en vais là. Et puis, il va y avoir God TV. Et c'est la première fois que moi je connais que God TV va faire quelque chose comme ça, semblable. C'est un temps, The Cry, c'est un ralliement qui va se passer là-bas où on va crier vers Dieu pour que Dieu visite la nation du Canada. Et puis ça s'est passé à Ottawa, j'ai déjà fait partie des ralliements The Cry. Il y avait environ 5000 personnes là où on voyait les foules de personnes en train de prier à Dieu. « Seigneur, visite notre pays, le Canada ». Je ne sais pas s'il y en a plusieurs pays qui font ça, mais en tout cas au Canada ça s'est passé. À la colline parlementaire, on disait « Seigneur, visite-nous ». Par ton esprit. Et là, le Seigneur a parlé à Faithine puis lui a dit, cette année, elle devait organiser 5 cries, le cri qu'on dit en français, 5 cris au Canada. Et là, finalement, en Nouvelle-Écosse, c'est le dernier cri de cette année. Et possiblement, c'est le dernier cri pour on ne sait pas combien de temps. Je sais que Faithine, elle organise des choses simplement quand le Seigneur lui donne un mandat. Et puis là, c'est le dernier cri cette année. Et ça s'adonne qu'il va avoir God TV qui va être là. Et ça va être télédiffusé devant 120 nations. Et moi, en tout cas, quand j'étais au téléphone, j'étais en train de prier avec eux. Puis là, Faithine a dit, est-ce que quelqu'un qui reçoit quelque chose de la part de Dieu? Et c'est venu sur moi bien fort. Et j'ai même commencé à pleurer au téléphone. C'est venu tellement fort, la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça me disait? C'est que toutes les années de préparation avec les ministères comme David Damien, Watchmen for the Nations, tous les ministères où ils ont fait des gestes de repentance, de pardon, tout ça, que le Seigneur avait préparé ça pour cette journée qui s'en vient prochainement, dans 2 semaines. Puis, j'ai commencé à dire ça au téléphone, c'est que nous sommes appelés comme nation à déclarer la paix aux nations. Et là, Dieu nous envoie God TV, qui est de l'Angleterre, UK, là, de l'Angleterre. Ils s'en viennent filmer ça au Canada. Et là, on va avoir une plateforme internationale pour faire quoi? Pour déclarer la paix aux nations. C'est merveilleux. Et qui va être là? Il va y avoir Tabitha Lemaire. Moi, je vais être là pour représenter la francophonie. Moi, je crois que mon rôle là-dedans, ça va être justement de faire ça, déclarer la paix aux nations. Je trouve que c'est un grand privilège. 120 nations qui vont être là. Des fois, on se dit, Seigneur, Dieu nous ouvre tellement des portes, des choses glorieuses. Puis on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe au Québec? On est-tu à Bromont, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On répond à l'appel de Dieu. Hein? On fait juste ça. Dieu dit, va-t'en à Bromont, Joël. OK, me voilà, Seigneur. Et puis, dans 2 semaines, on va être à Terre-Neuve. Et puis, vous pourrez même voir sur l'Internet God TV, si vous ne l'avez pas. Je ne pense pas qu'il s'est diffusé au Canada, sans peut-être le satellite. Mais vous pourrez voir cette réunion-là sur God TV, The Cry. Et puis, ça va être merveilleux. Moi, je sais que Dieu va faire quelque chose. Et peut-être c'est là où la vague va commencer. Dans le sens, dans ce coin-là, parce que c'était dans l'Est. Qu'est-ce que j'avais vu? C'était dans l'Est. Il y avait une grosse vague. Et peut-être ça va commencer à travailler. Il va y avoir ces vagues-là. Et là, tout d'un coup, ça va venir sur Québec. Et là, le restant, on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Mais avant les temps de la fin, il va devoir y avoir une récolte d'âmes. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Voir des âmes venir à Dieu? Et c'est certain, on pourrait aller faire du porte-à-porte. Mais savez-vous, moi, je pense que Dieu a d'autres plans. Certainement, on doit évangéliser, on doit partager notre foi. Je ne suis pas en train de mépriser ça. Mais ça va prendre quelque chose de surnaturel, bien plus. Parce que les gens ne cherchent pas une autre religion. Les gens n'ont pas soif d'une religion. Hey, c'est quelle bonne religion? Le monde ne cherche pas ça. Les gens ont soif de Dieu. Les gens ont soif du surnaturel. C'est pour ça qu'ils se tournent vers Jojo Savard. Et des semblables. Parce qu'ils veulent de quoi? Ils savent qu'il y a d'autres choses là, que la religion. Et moi, je crois, comme on va entrer dans les parvis de Dieu, dans la louange, ça c'est la clé, la louange, la présence de Dieu va venir sur nous. C'est ça qu'on veut, plus la présence de Dieu. Et la gloire s'en vient sur le Québec. J'ai eu une vision, il y a quelques années, j'étais en Alberta, j'avais une visitation de Dieu, puis qu'est-ce que j'ai vu? Puis c'est rare que je vous partage autant de choses personnelles comme ça, mais je pense que c'est important qu'on puisse avoir la vision commune que Dieu est en train de préparer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai vu dans ma vision? J'avais vu la tour Eiffel, et qu'est-ce que j'ai entendu très fort dans mon esprit? C'est que la France ne sera plus connue pour la tour Eiffel, mais la France va être connue pour le réveil, va être connue pour le vent de mon esprit qui va souffler. Les gens vont entendre parler de ça, même en France. Il y a un vent à travers la francophonie. Il y a un vent qui s'en vient. C'est ça qu'on va entendre. C'est venu fort dans mon esprit. On ne parlera plus de la tour Eiffel. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est pour le Québec et c'est pour la France. Et la raison pourquoi je parle de la France, c'est que le Québec va être un instrument. Certainement, c'est le Québec qui va déclarer la paix aux nations. Ça va se rejoindre même jusqu'en France. C'est pour ça que Dieu nous envoie des personnes qui nous demandent des émissions de télévision avant même qu'on ait nos studios. Parce que Dieu est en train de préparer ça. Moi, des fois, je suis comme, ça n'a pas de sens. Comment ça, déjà, il y a des portes comme ça vers nous, puis on n'a même pas de place à se rencontrer comme église. Ça fait-tu du sens? Mais Dieu, savez-vous, oh, Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Et mon épouse, il y a quelques années aussi, on était en Alberta dans le temps aussi, elle a eu un rêve, et comme vous savez, mon épouse, quand elle a des rêves, là, c'est prophétique, à moins que ce soit un rêve de pizza, mais elle a des rêves très spécifiques, très prophétiques. Qu'est-ce qu'elle a vu dans son rêve? C'est qu'il y avait tous des vieux bâtiments en France, elle se retrouvait là en France avec des vieux bâtiments, puis tout d'un coup, il y avait tous des meubles, des édifices, c'était tout flambant neuf. Puis qu'est-ce qu'elle a compris tout de suite? C'est que Dieu va faire une nouvelle chose en France. Dieu s'apprête à faire une nouvelle chose. Et moi, je crois que Dieu est en train de faire ça. Puis le Seigneur m'avait même donné une vision aussi quand j'ai eu cette vision-là pour la France. Je voyais des jeunes femmes qui arrivaient avec des paniers de pain. Et puis, il y avait des pasteurs qui étaient là en France. Et puis, il y avait toutes des morceaux de pain desséchés comme des croûtes. Et puis là, ces femmes-là arrivaient et apportaient le pain. Et moi, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est que, vous savez, en France, les femmes n'ont pas de droit de parole dans les églises, en grande partie. Il y a beaucoup de places où la femme doit s'asseoir et ne rien dire dans l'église. Mais Dieu disait que dans les derniers temps, il était pour répandre son esprit sur toute chair, incluant les femmes. Et que Dieu était pour se servir des femmes pour donner la bonne nourriture, le pain de vie à ces pasteurs-là. La France va connaître une révolution aussi. La femme va prendre sa place aussi. Mais tout ça va se passer par l'Esprit de Dieu. Et dans Zacharie 4, verset 6, il est écrit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel. » La victoire qu'on va avoir, ça va se passer dans le monde spirituel. Ça va se passer là, dans l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on a soif de Dieu? Est-ce qu'on a soif pour plus de Dieu? Si vous avez soif pour plus de Dieu, Dieu va vous en donner plus. Il va vous en donner plus. Moi, je crois même, pendant que vous êtes chez vous la semaine, vous êtes en train de prier et louer le Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur va envahir votre maison. Vous allez dire, waouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est la gloire de Dieu qui descend chez vous, qui vient s'installer chez vous. S'il y a une vague qui s'en vient, à quelque part, il y a besoin des gens remplis de l'Esprit qui parlent au vent pour que cette vague-là vienne. C'est vrai. Une vague, comment ça vient? Il y a un vent qui souffle sur l'eau et là, ça crée une vague. Et nous, on parle au vent puis on décrète que la gloire de Dieu s'en vient sur la nation. Peut-être ça n'a pas l'air de rien présentement. Peut-être notre vision, là, c'est comme, « Mais de quoi tu parles, Joël Spinks? Tu es dans un restaurant, Bromont. De quoi tu parles? » Mais il faut avoir une vision plus grande que ça. On parle au vent et le vent s'en vient. Le vent s'en vient. Et moi, je crois que comme vous allez prier chez vous, vous allez louer le Seigneur et vous allez voir que Dieu va se manifester dans vos vies. Peut-être vous vous dites, Joël, j'ai de la misère, j'ai une sécheresse quand je prie. On dirait que c'est difficile. Commencez juste à louer Dieu. Dis, Seigneur, je te loue parce que tu es un bon Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que tu as des bons projets, tu as des projets de paix, non de malheur pour nous. Je te remercie, Seigneur, pour tes promesses que tu vas visiter la province. Je te remercie parce que tu as une destinée pour le Canada. Merci parce que tu as une destinée pour ma famille aussi. Vous louez, Seigneur, chez vous, dans votre maison. Et là, vous allez voir, Dieu va habiter la louange de vous. Parce que Dieu a dit, Dieu habite la louange de son peuple. Si on veut sentir la présence de Dieu, on veut le vivre chez nous, il faut qu'il y ait des paroles qui sortent de notre bouche. Je sais, des fois, on dit, ouais, mais moi, je suis plus timide. Mais vous savez, à quelque part, il faut être prêt à marcher sur notre timidité et que ça sorte de notre bouche. Puis on dit, Seigneur, je te loue. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce qu'on peut le vivre en dedans. Et c'est correct, je comprends qu'il y a des gens qui vivent des choses en dedans. Mais à quelque part, savez-vous, moi j'ai remarqué là, que le peuple québécois, c'est un peuple expressif. Quand je suis allé voir ma petite nièce jouer au soccer cet été, là, les gens criaient. Là, ah ouais, là, là, là. Là, j'étais comme, si on faisait ça à l'église, là, les gens diraient qu'on est une gang de flyés, de capotés. Mais dans le monde, ils font, hein, n'est-ce pas? Ils crient, « Hey, fais de... » Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'ils disaient, là. Mais, « Ah ouais, là, t'es bien bonne » ou, tu sais, whatever. Mais il faut laisser le Seigneur donner un cri de notre cœur pour voir la gloire de Dieu. Il faut le laisser prier à travers nous. Mais ça commence par la louange. Louez le Seigneur, puis Dieu va faire quelque chose. Et vous allez voir, parce que Dieu est fidèle à sa parole, il a dit, il habite la louange de son peuple. La sécheresse va finir. La sécheresse va finir chez vous. Amen. Et dans l'Apocalypse 4, 1, non seulement est-ce que Dieu veut que son esprit vienne sur nous, mais Dieu veut nous donner quelque chose aussi dans tout ça. Dans l'Apocalypse 4, 1, ça dit, « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Ici, on voit Jean qui dit, « Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici. » Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc ici, Dieu a parlé, puis il a dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. Ici, c'est une invitation à Jean d'aller dans l'au-delà, d'aller au ciel, pour voir qu'est-ce que Dieu se réservait pour la terre. Pouvez-vous vous imaginer ça? Que Dieu vous dise, dans votre temps de prière, monte ici, j'ai des choses à vous raconter. Ça serait assez particulier. Mais Dieu l'a fait dans la parole. Est-ce que Dieu ne peut plus faire ça aujourd'hui? Est-ce que Dieu a pris une retraite? Est-ce que Dieu a cessé d'exister? Ou est-ce qu'on a un Dieu religieux puis on fait juste lire que Dieu existait, mais finalement il ne fait plus rien aujourd'hui? Ou est-ce que Dieu est vraiment vivant? Et s'il est vraiment vivant, est-ce qu'il agit de la même façon? Moi, je crois que oui. Dieu agit de la même façon. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a jamais changé. C'est juste les hommes qui ont prétendu que Dieu avait changé. Si Dieu se révélait comme ça dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau ici, là, Dieu le fait encore aujourd'hui. Et Dieu veut que vous puissiez entrer dans des dimensions surnaturelles pour recevoir les mandats de Dieu, pas simplement pour votre vie, mais pour savoir comment prier. Si on croit qu'il y a une vague qui s'en vient, Dieu va se servir de vos bouches pour prier pour que ça l'arrive. Parce que Dieu va toujours se servir de nous, parce que c'est à nous que Dieu a donné l'autorité sur la terre. Vous savez, on a déjà enseigné sur l'autorité du croyant, mais Dieu a donné l'autorité à l'Église de Jésus-Christ. Puis quand nous autres on prie, les anges sont mis en opération pour agir, pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est dans le psaume 103. Ou le psaume 91, plutôt, je vais le lire. Juste comme ça, vous allez voir, c'est biblique, qu'est-ce que je vous dis là. Je trouve que c'est toujours important d'avoir tous mes versets. En fait, c'est dans psaume 103. J'avais raison, premier coup. Psaume 103, au verset 20, ça dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées. » qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres. Mais le verset 20, ça dit, « Qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Vous savez, comme vous remplissez votre bouche de la parole de Dieu et ça sort de votre bouche, les anges sont mis en opération et commencent à travailler pour que cette vague-là vienne. Ils commencent à travailler pour que des choses, même dans vos vies, soient rétablies, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Et dans Jérémie 33, verset 3, il est écrit « Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu est intéressé à vous et Dieu veut se révéler à vous. Dieu veut vous donner ses stratégies de prière pour qu'on puisse vivre le réveil et pour qu'on puisse voir des choses se produire ici, même à Bromont. Parce que ça commence toujours à une place. Hein, ça commence toujours à un endroit. Ça commence dans nos cœurs, dans notre demeure, dans notre foyer, dans notre ville, notre province et notre nation. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais Dieu veut nous donner des choses cachées. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est tourner votre attention à ce PowerPoint qui est en anglais. Je vais lire en anglais premièrement pour ceux qui comprennent parce que ça coupe un petit peu le rythme si je le traduis tout de suite. Je vais lire en anglais premièrement. Ici, c'est une présentation sur le besoin du Québec. Et ça va vous aider aussi à savoir, d'un, comment prier pour le Québec. Mais deuxièmement, quand on va aller en Alberta pour la levée de fonds dans quelques semaines, vous allez voir, ça c'est une des choses qu'on va présenter qui va inspirer les gens à semer dans l'œuvre de Dieu au Québec. Et une autre chose, c'est que présentement, ce n'est pas terminé. Je l'ai fait moi-même. Et puis, on va avoir un montage audio et il va y avoir de la musique, tout ça. Mais je vais vous le montrer en anglais, je vais lire en anglais. Ensuite, je vais le refaire en français en le traduisant. Bon, the consensus is unanimous. We must eradicate hunger caused by famine. One people group, one missionary land, has been overlooked and forgotten. Who will nourish those in a spiritual famine? Quebec holds Canada's highest rates in violent crime, sexual, drug, and alcohol abuse, abortion, suicide. In the midst of wealth and beauty, why is there such hopelessness? There's been a prevailing gospel famine, a people without God or a people without hope. Of the 7 million Quebecois population, less than 0.5% claim to be born again. Less than 0.5% claim to be born again. There are more Christians in Africa than in Quebec. There are more Christians in Iraq than in Quebec. Do the lost send themselves missionaries? Who will fight for the French? Who will remember these forgotten ones? Who will feed a spiritually impoverished people? If Christ returned today, where would the French spend their eternity? Who will feed the French? Together, we can take Quebec for Jesus. Today is the day of salvation. What will you do? Who will tell them? The French are dying to hear.
Je vais le traduire en français. On peut le recommencer au début. Ça, c'est juste une des présentations qu'on va faire. Et puis, ça ne sera pas ma voix, ça va être la voix de quelqu'un d'autre. Il va y avoir de la musique, tout ça. Ça va être dramatisé. On met le paquet. Mais il faut que les gens soient conscients du fait qu'au Québec, c'est moins qu'un pour cent. Quand j'étais en Alberta, puis j'ai dit ça, oh, aïe, parce qu'en Ontario, je pense qu'il y en a, c'est 25 % 40 % dans certaines places que plein de gens croient en Jésus-Christ, mais au Québec, moins qu'un pour cent. Et c'est pour ça que même ce soir, quand on faisait le montage, il y a une soeur qui me disait, on se sent comme des extraterrestres hein, pour eux, parce qu'on arrive ici pour monter l'église dans un restaurant, puis ils nous regardent. Et c'est spécial, qu'est-ce qu'ils font ici, eux autres? On est comme des extraterrestres pour eux, mais avec Dieu, on ne l'est pas. Là, je vais traduire. Donc, le consensus est unanime. Nous devons éradier la faim causée par la famine. Donc, c'est ça la pensée ici. Et la famine, souvent, on pense toujours aux petits noirs en Afrique. Savez-vous? Et souvent, on donne de l'argent en Afrique pour soutenir les orphelins. Puis c'est correct, on le fait ici. L'Église de la Victoire, on fait déjà ça. C'est correct. Mais la plus grande famine, ce n'est pas en Afrique, c'est ici. Un groupe de personnes, une terre missionnaire, a été complètement overlooked, comment on dit ça en français? Négligé et oublié. Qui va nourrir ceux qui périssent présentement dans cette famine spirituelle? S'ils ne l'ont pas vu, je le dis trois fois. Et là, je dis que le Québec détient les taux le plus haut dans les crimes violents, dans l'abus de sexuel, drogue et de l'alcool, et également dans l'avortement, juste après l'Ontario, le suicide. Puis là, je parle ici, malgré toute la beauté et la richesse de notre province, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de hopelessness? Désespoir. Finalement, je n'ai pas besoin de le traduire. Désespoir ici, OK? Et là, je donne la réponse. Il y a eu une famine qui a continué sans cesse. Ça fait longtemps qu'il y a une famine de l'Évangile. Donc, un peuple sans Dieu, c'est un peuple sans espoir. Et des 7 millions d'habitants au Québec, moins 5 % sont nés de nouveau ou disent qu'ils sont nés de nouveau. Il y a plus de croyants en Afrique qu'au Québec, plus de chrétiens en Irak qu'au Québec. J'espère que ça va réveiller des gens. Et est-ce que les perdus vont s'envoyer eux-mêmes des missionnaires? Et bien sûr que non. Ça prend des croyants pour envoyer. Et nous sommes les missionnaires, en passant. Nous sommes les missionnaires. Qui va se battre pour les francophones? Qui va se rappeler de ceux qui ont été oubliés? Qui va nourrir ceux qui sont appauvris spirituellement? Si Christ revenait aujourd'hui, où est-ce que les Français vont passer leur éternité? Je donne une réponse ici. On va assez vite. Qui va nourrir les francophones? Ensemble, nous pouvons prendre le Québec pour Jésus. Aujourd'hui est le jour du salut. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui va leur dire? La prochaine génération ici. Les Français sont en train de mourir pour entendre. Donc ça, c'est ce que je voulais vous présenter concernant la présentation PowerPoint qu'on va démontrer là-bas en Alberta. Et puis, vous pouvez prier que Dieu touche des cœurs, parce qu'on a vraiment besoin de l'aide de l'extérieur pour que la gloire de Dieu vienne. Et puis, une autre chose que j'avais à cœur, c'est, vous savez, au Québec, il y a la mentalité qui dit, bien moi, je suis né pour un petit pain. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé comme ça dans le passé? Une, deux, je suis né pour un petit pain. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont pensé comme ça dans le passé? Une, soyez honnêtes là. Une, deux, il y avait trois. Avant d'être chrétien, peut-être, inconsciemment, oui. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. À quelque part dans votre vie, vous avez cru que vous étiez né pour un petit pain. Hein? Mais ça, c'est la mentalité beaucoup au Québec. Mais savez-vous, une des raisons pour ça, c'est qu'il y a un enseignement que Dieu en choisit. Certains pour aller au ciel, puis il y en a d'autres qui choisissent, qui ne choisissent pas pour aller au ciel. Et par conséquent, automatiquement, il y en a qui s'en vont au ciel, puis il y en a d'autres qui s'en vont indirectement en enfer. Et ça, c'est une pensée dans l'Église, et dans certaines églises évangéliques aussi. Et je voulais vous montrer ici que, oui, nous sommes prédestinés. Mais Dieu, dans son plan, a prédestiné que tout le monde puisse être sauvé. Et je veux qu'on puisse adresser ça avant qu'on termine la prédication. Ici, dans Romains 8, versets 29 à 31, si vous allez voir, là, si vous n'êtes pas sûr que Dieu a un plan ou une destinée pour le Canada ou le Québec, croyez au moins que Dieu a un plan pour vous. Et c'est là ce qu'on s'en va maintenant. Dieu a un plan pour vous. Dans Romains 8, 29 à 31, il est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc, la prédestination ici, c'est d'être comment? C'est le plan de Dieu qui est prédestiné, qui est d'être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Voyez-vous, ceux qui ont été prédestinés ont été également prédestinés à vivre la gloire de Dieu. Et à être glorifiés, certainement, ça nous parle qu'un jour, même quand on va être au ciel, on va avoir ce corps glorifié. Mais moi, je crois qu'on peut commencer à vivre la gloire de Dieu avant même de mourir. On peut commencer à goûter à cette gloire-là. On va être glorifié. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Absolument, nous allons être glorifiés. Et la compréhension de cette prédestination dans Éphésiens 1, verset 11. Ici, ça nous parle de prédestination. Et je me souviens, j'avais suivi un cours dans un cours d'école biblique, là. Et puis c'était dans une certaine dénomination, je ne dirais pas c'était laquelle, mais il nous parlait comme quoi Dieu avait choisi certaines personnes pour être sauvées, et le fait que Dieu n'avait pas choisi d'autres personnes, bien automatiquement ces personnes-là s'en allaient en enfer. Et puis on a pris ce texte-là ici, écoutez bien, et après je vais vous dire c'était quoi ma réflexion. Dans Éphésiens 1, 11, ça dit « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, ici, on dit Dieu, selon sa volonté, il prédestine certaines personnes pour aller au ciel, certaines personnes qui vont entrer dans la gloire. OK? Selon sa volonté. Est-ce que ce n'est pas écrit ici? C'est écrit, n'est-ce pas? Mais il y a une clé, il faut comprendre. Au verset 11, ça dit, même verset, en lui, c'est ça la révélation. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés. En lui, dans le plan de Dieu, nous sommes prédestinés. Tous ceux qui sont en lui font partie de la gang qui va être glorifiée. C'est simple, en lui. Et j'ai parlé avec le professeur de théologie qui enseignait ça. J'ai dit, oui, mais monsieur, avez-vous remarqué que ça dit en lui? Et là, il dit, oui, on n'a pas le choix. Là. C'est Dieu qui nous choisit, on n'a pas de choix là-dedans. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens comme ça qui croient, on n'a pas le choix. C'est Dieu qui nous choisit, puis on fait simplement suivre comme des robots. J'ai dit, oui, mais Adam et Ève, eux, ils ont choisi Dieu. Ouais, on ne parle pas d'Adam et Ève, là. On parle juste de ce verset-là. Mais vous voyez, ça ne fait pas de sens. Mais si on se dit, ouais, OK, mais c'est selon la volonté de Dieu qu'on est prédestiné, OK, et pas en lui. Mais regardons d'autres versets dans Jean 6, 40, ça dit, « La volonté de mon Père, ici, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est la volonté de mon Père. Donc, Dieu veut que vous puissiez être sauvés, certainement, et entrer dans la gloire. Il ne faut pas avoir la pensée du petit pain, puis « Ah, oh, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Non, 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 c'est pour vous, les Québécois, la gloire de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Et 2 Pierre 3,9, il est écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. » mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça que Dieu veut. Si vous êtes mélangés, puis vous croyez des mensonges, que c'est juste pour les autres. Quand la vague va venir, moi, je ne serai pas dedans, parce que c'est toujours pour les autres. Hein? C'est comme, moi, je donne ma dîme, mais moi, je ne reçois pas, moi, l'abondance. C'est toujours juste pour les autres. Changeons notre façon de penser. Regardez nos frères, là, notre frère et notre sœur. Ils ont été fidèles, puis Dieu leur donne une maison. Nous, pareillement, on était fidèles. Dieu nous a donné une maison, puis c'était impossible dans le naturel pour nous d'avoir une maison. C'était impossible, c'était pas selon nos moyens. Mais avec Dieu, hein, quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais ça, c'est la volonté, ne voulant qu'aucun périsse. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Dieu veut que tout le monde puisse entrer dans la gloire. Et dans 1 Pierre 1, verset 2, en parlant des croyants, ça dit, « Ils sont élus selon la préséance de Dieu. » Le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants
et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, tout ça dans la préséance de Dieu, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mais ça le dit ici, c'est selon la préséance de Dieu. Parce que Dieu le savait à l'avance que vous étiez pour dire oui à l'invitation. Si vous dites oui à Jésus-Christ, savez-vous que vous ne surprenez pas le Seigneur? Il savait à l'avance. Donc, la question de l'élection, la prédestination, la gloire, tout ça, c'est pour vous. Passez pas à côté ce soir et dites, ça ne sera pas pour moi. La gloire, là, j'ai beau en entendre parler, ou même la présence de Dieu, mais c'est juste pour les autres. Non, c'est pour vous, enfants de Dieu. C'est pour chaque personne qui est ici. C'est pour vous. Vous pouvez écouter à tout le maximum de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de limite. Et moi, je crois là, qu'on va entrer dans plus de sa gloire. Absolument, il faut entrer dans plus de sa gloire. Il faut rentrer dans plus. On ne peut pas demeurer où on est là. Mais ça ne viendra pas par vos efforts. Ça ne sera pas en essayant et dire, OK, ben là, il faut que je fasse telle ou telle chose là, pour que ça l'arrive. En louant le Seigneur ensemble, en collectivité, en louant Dieu de tout notre cœur, en lui disant comment on l'aime, Dieu va venir habiter nos louanges. Et la gloire va être là. Et on rentre dedans, mais on est juste à la porte. Et moi, j'ai hâte de voir plus de sa gloire. Est-ce que vous avez soif ce soir? Amen. Quand on va avoir le 1,5 million ou plus, est-ce qu'on va savoir quoi faire avec pour le Québec, pensez-vous? Amen. On va savoir quoi faire avec. Et moi, je crois aussi qu'on va engager des gens, parce que je ne pourrais pas tout faire tout seul. Donc, donnez votre CV à la fin de la réunion. C'est une joke. Non, mais sérieusement, on va avoir besoin d'une équipe. Et puis, priez. Je termine la réunion là, très prochainement, mais continuez à prier que Dieu travaille dans les cœurs, même avant qu'on arrive. Comme ça, quand j'arrive pour faire la présentation devant les gens qui vont être là au banquet, que les cœurs soient déjà comme, oui, où c'est que je peux signer? Hein? Dieu peut le faire. Quand j'étais en Alberta, dans mon voyage, il y a quelques semaines, j'étais là en train de partager un petit peu sur le Québec. Et là, les pasteurs, les 30 pasteurs qui étaient là, ont tous commencé à dire, il faut faire quelque chose pour le Québec. Mais ça, c'était miraculeux. Ça, c'était la main de Dieu. Puis j'étais assis, j'ai dit, je vis à l'intérieur d'un miracle. Parce qu'avant, on était obligé de convaincre les gens que c'était important de faire de quoi pour les Québécois. Mais on se prépare à vivre la grandeur de la gloire de Dieu. Et Dieu va avoir besoin de nous. Dieu va avoir besoin de ce centre ministériel-là. Il va l'avoir besoin. Parce qu'il y a des âmes qui s'en viennent, là. Il va y avoir des âmes. Là. Préparez-vous spirituellement, là. Si vous êtes mort, là, spirituellement, réveillez-vous. Réveillez-vous. Lisez la parole. Commencez à la connaître. Parce que les gens vont venir vers vous bientôt puis vont dire, comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? La vie après la mort, c'est quoi? Y a-t-il quelque chose qui se passe après? Si vous connaissez rien, vous n'allez pas être capable de les aider. Mais remplissez-vous de la parole de Dieu. Remplissez-vous aussi de l'onction de Dieu. Parce que s'il y a des gens qui sont malades dans leur corps, comme ça, vous pourrez prier pour eux puis voir des changements dans leur vie. Remplissez-vous de tout ce que vous pouvez de Dieu. Ce n'est pas le temps de passer à côté. Il faut être rempli de lui pour être les outils, les instruments que Dieu a besoin dans l'heure de la fin. Amen. Alors, continuez à prier avec nous pour ce que Dieu va faire. Et en terminant, vous savez, on croit vraiment que Dieu peut travailler dans les cœurs, mais moi je crois aussi que non seulement est-ce que Dieu veut utiliser les anglophones pour semer dans la francophonie, moi je crois que Dieu peut se servir de nous. Et ce soir, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans le passé. J'ai jamais fait ça. Mais ce soir, je vais vous donner l'opportunité de semer à nouveau pour le dépôt, pour le banquet. Vous savez, on a 500$ à faire comme dépôt pour le banquet, parce qu'on engage des traiteurs. Ça va être un super de beau banquet. Et comme je priais cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner le privilège de dire, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont semé en premier pour le réveil qui s'en vient au Québec. J'ai fait partie de la gang qui ont cru assez, que j'ai pas simplement prié pour cette chose, mais j'ai investi dans le royaume de Dieu. Et Dieu voit votre engagement, Dieu voit votre cœur. Et ce soir, moi, je veux vous inviter à pencher vos têtes et on va prier ensemble que Dieu vous montre le montant. Vous savez, 500$ en église, là, c'est pas beaucoup. Vous savez, des fois, une personne tout seul peut le faire. Mais en église, ce soir, moi, je ne mets pas de pression. Vous me connaissez, je ne mets jamais de pression sur les gens. Mais je crois qu'on a un privilège ce soir. Et moi, là, on peut aller en Alberta et savoir que, bien, finalement, ce n'est pas juste les Albertains qui vont tout faire, mais les Québécois, eux autres aussi, vont faire leur part. Ils vont au moins faire le dépôt pour que Dieu fasse le restant. Hein, c'est quelque chose. Alors, on va prier maintenant. Seigneur Dieu, je prie que Maintenant, Seigneur, ton esprit puisse travailler même dans les cœurs de ceux qui sont ici. On n'a pas grand-chose à ramasser, Seigneur. Et c'est sûr qu'une personne seule pourrait le faire, mais ensemble, Seigneur Dieu, je prie que tu puisses donner à chaque personne un dépôt, un montant dans leur cœur. Comme on prie, Seigneur, que tu le fais déjà en Alberta, Seigneur Dieu. On prie, Seigneur, déjà que tu parles aux gens, Seigneur, qui sont capables, qui sont dans les moyens, Seigneur, de semer pour qu'on puisse avoir ce grand centre ministériel-là. Mais Seigneur, je sais que ce soir, tu veux voir notre cœur aussi. Est-ce qu'on fait juste prier que les autres donnent sans qu'on soit prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier, Seigneur, pour la cause de la francophonie? Seigneur Dieu, je te prie ce soir que tu puisses toucher des cœurs et qu'on puisse voir plus que même le 500 $, qu'on puisse voir, qu'on puisse aller dans l'abondance, qu'on puisse y aller en Alberta, sachant que le dépôt au moins est tout payé, Seigneur Dieu. Je te prie de travailler par ton esprit ce soir dans les cœurs de chaque personne. Seigneur Dieu, je te prie aussi que les gens puissent comprendre, Seigneur, dans l'esprit que c'est fait. Ce n'est pas sous la pression, Seigneur, mais c'est fait simplement pour donner un privilège qu'on peut semer à nouveau dans le royaume de Dieu ici à Bromont. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à mon père de venir donner le panier. Ah, il est déjà revenu. Et puis, je crois que le Seigneur parle sûrement des cœurs. Si vous dites, Joël, moi, je n'ai pas de mon chéquier, j'étais pas préparé à ça. Bien, vous faites toujours semer mercredi soir, si c'est le cas pour vous. Mais si vous l'avez, puis vous avez à cœur de semer ou de l'écrire, vous pouvez le faire ce soir. Puis on va le prendre, puis je l'envoie demain matin en Alberta. Vous savez, votre argent s'en va déjà en Alberta, si vous semez à nouveau. Est-ce que tu avais de quoi dire? Non?
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joël Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.